RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au Sri Lanka. Le pays a lancé depuis une décennie maintenant des grands travaux pour construire des autoroutes, des ports, des aéroports sur toute l'île. Et pour financer ces chantiers très coûteux, le petit pays asiatique a fait appel à la Chine qui a accepté, mais en échange de prêts à des taux élevés. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement sri-lankais essaie de réduire sa dépendance économique et diplomatique envers la Chine, mais il se trouve dans une impasse car Colombo a du mal à payer ses emprunts et se retrouve contraint d'offrir aux entreprises chinoises plus de terrain, plus d'avantages. Cela réjouit Pékin qui veut faire de cette île de l'océan Indien l'un de ses ports stratégiques dans la région, mais cela effraie la population locale qui pourrait être expulsée de ses terres pour laisser la place aux ambitions chinoises. Sri Lanka, la Chine étant son emprise, grand reportage de notre envoyé spécial Sébastien Farcy.
Nous parcourons la campagne d'Ambantota au sud-est du Sri Lanka et à plus de 200 km de la capitale, Colombo. Tout autour de nous s'étend une nature luxuriante, des forêts de palmiers, de cocotiers entrecoupées de champs de légumes et de petites maisons par-ci par-là. Mais voilà, cette campagne fertile pourrait bientôt être rasée pour laisser place à une énorme zone industrielle chinoise. C'est en tout cas ce que prévoyait le gouvernement sri-lankais avant que les habitants concernés ne manifestent fermement leur opposition.
Le temple.
Ah, le temple.
Il y a quelques mois, quand les officiels sont venus poser une pierre pour symboliser le fait que cette terre serait au centre de la nouvelle zone, nous avons pris la pierre et nous l'avons jetée dans le lac. Cela a été le début de notre révolte. Et nous avons continué à protester jusqu'à la grande manifestation du 7 janvier.
Ce 7 janvier, le Premier ministre sri-lankais et l'ambassadeur chinois viennent à Ambantota pour officialiser la signature d'un nouveau contrat entre le gouvernement de Colombo et l'entreprise chinoise China Merchants. Cette dernière, qui opère déjà le nouveau port d'Ambantota, doit ainsi prendre le contrôle de 60 km² de terre autour de ce port pour développer une zone industrielle, et ceci pour une période de 99 ans. Une des résidentes s'insurge.
Ceci est notre terre ancestrale. Nous vivons ici depuis des générations. Mais quand nous avons vu ces fonctionnaires faire des relevés, nous avons réalisé que cette terre allait nous être enlevée. Le gouvernement aurait pu nous en parler avant. Mais non, cela a été décidé sans nous. Alors nous avons commencé à résister.
Les habitants de cette région rurale et peu riche du sud-est du Sri Lanka ne se battent pas uniquement pour des raisons sentimentales ou historiques. Beaucoup dépendent de cette terre pour vivre. Comme Barmasena Yetarachichi, un agriculteur de 52 ans qui cultive et vend jusqu'à 600 kg d'aubergines par semaine.
Ma famille entière dépend de ces terres et de ces récoltes. Si l'on me prend ce terrain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? J'ai plus de 50 ans, je ne peux pas me reconvertir si facilement. Mais surtout, je suis agriculteur par passion. En plus des aubergines, je cultive également du riz dans un autre champ. Et je suis fier d'offrir toute cette nourriture à ma nation. Or, ce sentiment, je ne le ressentirai jamais en allant travailler dans une usine du matin au soir.
Cette inquiétude face au manque de transparence du gouvernement sur ce projet s'est transformée en colère quand les résidents ont vu l'ambassadeur chinois et le Premier ministre arriver le 7 janvier. Des centaines d'habitants menés par des moines bouddhistes ont alors protesté le long de la route nationale d'Ambantota, et ceci malgré une interdiction partielle de rassemblement décrétée par la justice. Face à une foule frustrée, énervée, la police a déployé les canons à eau et finalement arrêté 52 manifestants, dont plusieurs religieux, ce qui est très rare au Sri Lanka. Le 27 février, au bout de près de 2 mois de détention provisoire, les 24 derniers protestataires sont libérés. L'un d'entre eux, Prabhat, à peine sorti du tribunal, affirme vouloir poursuivre le combat.
C'était injuste de nous enfermer pendant si longtemps. Nous n'avons rien fait de mal. Nous voulons seulement protéger notre terre et empêcher qu'elle soit conquise par une force étrangère. Nous ne sommes pas contre le développement de la région par des grands projets, mais nous sommes contre la vente de notre pays.
Dans cette région d'Ambantota, les entreprises chinoises ont déjà construit le port et le nouvel aéroport international, ce qui a d'abord impressionné les habitants. Mais ce nouveau projet fait craindre maintenant une vraie mainmise de la Chine sur les infrastructures de cette région, surtout que ces compagnies envoient généralement leurs propres travailleurs sur place. Le moine bouddhiste Baragama Nanatilake est l'un des militants les plus actifs de cette région. Il a manifesté le 7 janvier dernier, pacifiquement, dit-il, pour défendre l'harmonie sociale qui pourrait être mise à mal par cette mégazone industrielle chinoise.
Au Sri Lanka, les populations originelles sont les Singhalais et les Tamouls, qui ont longtemps vécu en coexistence. Puis les Anglais ont fait venir des esclaves Tamouls pour travailler sur l'île. Et cela, déjà, a créé des tensions. Des marchands musulmans sont ensuite arrivés. Voici la structure nationale actuelle. Et notre mission, ma mission, c'est de protéger cet équilibre, cette harmonie nationale. Car ce que nous craignons, c'est de souffrir d'une vraie colonisation chinoise, avec l'appropriation d'une telle surface de terre. Et cela, nous ne pouvons le permettre.
Le chaudron d'Ambantota n'est en fait que le symptôme d'un problème plus profond, qui est l'énorme endettement de l'État sri-lankais envers la Chine. Pour comprendre, il faut revenir au milieu des années 2000. Le président de l'époque, le nationaliste Mahinda Rajapakse, est alors en guerre contre la rébellion des tigres tamouls et il veut en finir par la manière forte, ce qui déplaît à l'Inde voisine ainsi qu'à la plupart des puissances occidentales qui refusent de lui fournir des armes et l'isolent petit à petit diplomatiquement. Mahinda Rajapakse se tourne alors vers la Chine, qui non seulement fournit les moyens militaires pour écraser les rebelles tamouls dans le sang, mais ouvre également son portefeuille pour les ambitions économiques du président Rajapakse. En quelques années, les différents conglomérats de travaux publics chinois ont ainsi construit, entre autres, une autoroute d'environ 100 km, un port en eau profonde au sud de Colombo, un autre à Ambatota, ainsi qu'un nouvel aéroport international et un centre de congrès dans cette région qui est également le fief du clan des Rajapakse. L'énorme majorité de ces ouvrages a été financée par des prêts contractés à des taux commerciaux assez élevés. Et entre 2009 et 2015, le gouvernement sri-lankais a ainsi emprunté plus de 5 milliards d'euros à différentes banques chinoises, des prêts qui ont dû commencer à être remboursés 5 ans après. Le problème, c'est que ces infrastructures mettent souvent plus de 5 ans à devenir rentables, ce qui alourdit encore plus la dette publique. Le gouvernement sri-lankais se retrouve alors piégé dans un cercle vicieux. En 2015, un nouveau président est élu à la tête du Sri Lanka et promet de réduire cette dépendance envers la Chine. Maithripala Sirisena met en suspens la plupart des projets portuaires pour se rendre compte un an après qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Entre 2010 et 2014, la dette publique a en effet triplé pour atteindre 94% du PIB sri-lankais. Et encore aujourd'hui, plus d'un tiers des revenus de l'État partent dans le paiement des prêts chinois. Ce président ne peut pas revenir sur ses projets et doit les exploiter donc pour ne pas accroître cette dette. Le gouvernement reprend ainsi progressivement les affaires avec Pékin. Il se retrouve même, pour rattraper le temps perdu, à devoir offrir encore plus que prévu. Et c'est là que semble se trouver le péché d'Ambantota. car à l'origine, la zone industrielle autour de ce port ne devait s'étendre que sur 5 km² et ces terres étaient en grande partie déjà acquises. L'année dernière, le gouvernement du président Cyril Sena étend en fait cette zone à 60 km², la période du bail à 99 ans au lieu de 35 ans et offre davantage de parts à l'entreprise chinoise. L'argent récolté par cette vente de terrain doit servir à payer les emprunts, dit le gouvernement. Mais ce changement soudain et sans concertation a provoqué la colère des habitants. Selon l'économiste Rohan Samarajiva, directeur du think tank Learn Asia, ces problèmes étaient envisageables car l'ensemble de ce projet d'Ambantota a été mal ficelé.
Now these are Exim Bank loans, right?
La plupart de ces emprunts chinois contractés n'ont que 5 ans de période de grâce avant qu'ils doivent commencer à les rembourser. Pour certains emprunts, cette période n'est même que de 3 ans. Personne ne fait cela pour des projets d'infrastructure, car on sait qu'ils mettent du temps à être rentables. Le genre d'emprunt pour des projets d'infrastructure pour lesquels j'ai travaillé offrait une période de grâce de 25 ou 30 ans.
Le port d'Ambantota souffre également d'autres défauts. Il ne peut pas encore accueillir de conteneurs, ce qui est très handicapant. Et la terre où doit naître la zone industrielle est l'une des plus arides du pays, ce qui obligerait les entreprises à importer de l'eau. Mais les autorités semblent être passées outre ces problèmes car ce port a été décidé sans concertation ni étude sérieuse, affirme Rohan Samarajiva.
À l'inauguration du port, le directeur de l'autorité des ports a déclaré que ce port avait pu voir le jour car le président Rajapakse était entièrement derrière le projet. Et il a rajouté que si quelqu'un n'est pas complètement d'accord avec la construction de ce port, il ne doit plus venir aux réunions. En résumé, personne ne peut questionner ma décision de mettre un port ici. Des experts comme moi, qui auraient pu peser le pour et le contre, auraient dû soit la fermer, soit ne plus venir.
People who know the subject. RFI a contacté 2 ministres du gouvernement pour avoir leur réaction, mais ils n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Les architectes de ce méga-projet affirment, eux, que ce dernier avait été conçu intelligemment afin de développer toute cette région d'Ambantota qui ne bénéficie pas complètement de la croissance nationale. Le port, la zone industrielle et l'aéroport de Matala constituer un ensemble attrayant pour les investisseurs, soutient Namal Rajapakse, fils de l'ancien président et député du district d'Ambantota.
There are very few ports in the world where you will have ARC transshipment.
Il y a peu de ports au monde qui permettent un transbordement vers le transport aérien. Ambantota est l'un d'entre eux. La nouvelle autoroute dont nous avons lancé la construction relie en effet le port et l'aéroport. Et l'autre autoroute du sud permet la connexion jusqu'au port de Colombo. Donc si un passager ou un cargo veut opérer un transfert entre un vol et un bateau, la seule chose qu'il doit faire, c'est atterrir à l'aéroport de Matala et aller au port Ambantota qui se trouve dans une zone franche à 10 minutes de route et qui peut accueillir des entreprises. Les infrastructures étaient en train de se développer et les entreprises commençaient à arriver. Notre plan était que la zone devienne rentable en 9 ans et ensuite peut-être d'ouvrir le capital en plaçant le port en bourse. Mais cela a mal tourné quand le nouveau gouvernement a arrêté tout le projet, affirmant qu'il était entaché de corruption et qu'il voulait mener une enquête. Résultat, les coûts ont augmenté, l'économie a ralenti, la roupie s'est affaiblie et la confiance générale a baissé.
Le Sri Lanka a pendant des décennies été un allié naturel de l'Inde, dont les côtes ne se trouvent qu'à quelques kilomètres des siennes. Colombo a ainsi réalisé un important changement stratégique en se tournant aussi clairement vers les Chinois. Mais le député Namal Rajapakse affirme que cela n'était pas pour s'opposer à l'Inde.
India misunderstood us. We were looking at our people's interest.
L'Inde n'a pas compris notre réorientation. Nous nous intéressions surtout aux intérêts de notre peuple. Nous avons entendu pendant 20 ans que l'Inde construise l'autoroute et le port Ambantota. L'idée initiale est née en 1986 et un accord a été signé par le président sri-lankais de l'époque avec l'Inde pour construire l'autoroute entre Colombo et Katunayake. Une pierre fondatrice a été déposée à l'époque, mais elle a traîné là-bas pendant 20 ans sans que rien ne se passe. Donc nous avons dû prendre une décision entre nous en tenir à nos alliés traditionnels ou approcher ceux qui sont vraiment décidés à nous aider.
La Chine ne cache pas son grand intérêt à se rapprocher du Sri Lanka. Cette petite île de l'océan Indien est en effet une étape idéale dans la grande route maritime que Pékin essaye de développer entre le Moyen-Orient et la Chine afin de garantir un passage plus sûr de ses hydrocarbures, ce que le Parti communiste a nommé en 2013 la nouvelle route maritime de la soie. Du Pakistan au Bangladesh, en passant par la Birmanie, presque tous les pays de la région ont ainsi bénéficié de tels investissements chinois en infrastructures, principalement des ports qui sont en partie contrôlés par les entreprises chinoises. Ceux-ci peuvent ensuite être connectés à des pipelines terrestres pour éviter à Pékin le délicat détroit de Malacca. C'est ce qui a été déjà mis en place en Birmanie, comme l'explique Rohan Samarajiva du think tank Learn Asia.
Le détroit de Malacca est comme un canal, pas tellement différent de celui de Panama. Certains gros tankers chinois transportant des hydrocarbures ne le traversent pas, car Malacca est trop étroit, embouteillé. Il faisait encore récemment l'objet d'attaques de pirates. Ce n'est pas un bon endroit, car si vous cherchez à m'enfermer, vous faites couler un bateau dans le détroit et voilà. Mes approvisionnements énergétiques sont bloqués. Pour résoudre ce problème, les Chinois sont allés à un endroit appelé Kyokpyu, sur la côte birmane. Ils ont construit un port et des pipelines de pétrole et de gaz. Et ils prévoient des routes et des lignes de chemin de fer pour relier ce port à l'ouest de la Chine à travers la Birmanie. Dans cette perspective d'un nouveau trafic à travers le golfe du Bengale vers la Birmanie, Hambantota peut être très utile car il représente un carrefour.
Almost like the dividing point between the two. Ces ambitions chinoises ont permis au Sri Lanka de développer rapidement certaines infrastructures nécessaires à son développement économique, comme des autoroutes, des lignes de chemin de fer et des centrales énergétiques. Le problème est que maintenant, l'État sri-lankais est tellement endetté envers Pékin qu'il peut se retrouver sous son emprise diplomatique et stratégique. Plusieurs signes de cette évolution, des sous-marins militaires se sont arrêtés dans les ports sri-lankais ces dernières années et surtout les autorités de Pékin auraient cherché à obtenir le droit exclusif de survol de l'un des ports construits par une entreprise chinoise. Pour certains observateurs, cela démontre le lien périlleux qui existe entre ces compagnies de travaux publics qui sont quasiment toutes publiques et les objectifs stratégiques de l'État chinois. C'est ce qu'avance Jeff Smith. Il est le directeur du programme sur la sécurité en Asie au Conseil américain pour la politique étrangère.
The evidence is rather clear that China and these state-owned enterprises.
Il y a assez de preuves pour montrer que la Chine et ses entreprises publiques n'opèrent pas de la même manière que les entreprises et les institutions financières occidentales. Certains avanceront que Boeing ou Airbus opèrent d'une manière similaire. Boeing peut en effet bénéficier du soutien du gouvernement américain. Mais Boeing n'est pas dirigé par quelqu'un lié à l'armée américaine et qui est encore activement impliqué dans sa planification diplomatique et militaire. Military and foreign policy planning. These large strategic investments couched within a broader grand strategy. Beaucoup de ces grands investissements des entreprises publiques chinoises sont réalisés dans le but de servir des intérêts stratégiques de l'État chinois de manière beaucoup plus directe qu'en Occident. Ils servent les objectifs du gouvernement chinois et pas ceux d'investisseurs ou d'un comité de direction. Et on doit être très prudent car il y a beaucoup de cas de piratage en ligne ou d'espionnage réalisé par les Chinois pour asseoir leurs ambitions. Et ceci à un niveau qui n'a pas d'égal en Occident.
Pour l'instant, le projet de la grande zone industrielle d'Hambantota a été gelé à cause de la résistance de la population locale, ce qui pourrait remettre en cause la viabilité économique de tout le complexe portuaire et aéroportuaire. Ce retard semble déjà irriter le gouvernement chinois. Une nouvelle phase des relations entre les deux pays, bien plus tendue cette fois, commence à présent. Sri Lanka, la Chine étant son emprise, c'était un grand reportage au Sri Lanka de Sébastien Farsi, réalisation Lorenzo Lacchesi Dane.
Présidentielle 2017.